on va revenir sur The Osbournes. Oui. L'artiste qui a fait la chanson, la reprise de Crazy Train, c'est un certain Lewis, Lamedica. Cherche pas sur Spotify, j'ai checké, il est pas là, mais je t'ai envoyé un lien YouTube si on est chanceux.
Ben regarde, on va se laisser là-dessus très rapidement, ça marche, étant donné qu'on est en train de défoncer. Je sais pas ce qui s'est passé avec notre chrono, mais on l'a complètement échappé. Il y a eu un petit problème, je sais pas où, je sais pas comment.
C'est pas notre chrono, c'est Marceau qui a défoncé, c'est pas toi puis moi.
Ah ok, ben, c'est de la faute à Marceau, j'ai aucun problème. Non, c'est pas ça. Non, okay. C'est pas le lien que tu m'as envoyé. Fait que, ouais, on va se retirer dans la honte. Ça a pas bien été. Nous ferons mieux demain parce que la barre est basse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres, puis nous autres, ben, on va aller se cacher. Salut.
Boulevard 102. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe aux choses, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-ice, Ovechkin fires! Score! Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. En espérant que tu aies passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes puisque ce soir, j'ai encore une fois un bon invité à vous présenter. Il s'agit du chef, il s'agit d'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec qui sera avec nous. Pour l'instant, à la météo, vous voyez, c'est un ciel qui est dégagé, un minimum de moins 7 degrés. Cette nuit, on parle d'un refroidissement éolien de moins 13 comme température ressentie. Demain, vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 8. Peut-être un peu de pluie qui devrait débuter en mi-journée avec un minimum de plus 2 en soirée. C'est ce qu'on nous mentionne. Pour ce qui est de samedi, ce week-end, alternance de soleil et de nuages, maximum de 12. C'est une très bonne nouvelle. On va-tu sortir la moto demain? Ben, peut-être, on va regarder ça pour sortir ça en fin de semaine. Sinon, dimanche, à plus long terme, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 14 degrés. Donc, de ce pas, je me dirige vers les studios de Marceau Soir pour rencontrer Éric Duhaime. Donc, voilà, le chef du Parti conservateur sera avec nous pendant plus de 60 minutes. On va essayer de le découvrir sur un autre angle ce soir. Donc, voilà. Monsieur avec la grosse voix, c'est maintenant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, salut.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios de podcast de Marceau Soir. Merci d'être là en présentiel. On en parlait un petit peu pendant la pause, là. C'est le fun que tu te donnes la peine de te déplacer comme dans le temps.
Je sais que je suis un des rares qui est comme ça, mais moi, je suis prêt à faire... Je disais à mon attaché de presse, c'est une demi-heure aller, une demi-heure revenir, maximum.
Ouais.
Je suis prêt à perdre une heure pour aller faire une entrevue live plutôt qu'au téléphone ou par vidéo. Mais si c'est plus qu'une heure, ben là, oublie ça. Là.
Ouais.
Mais pour moi, c'est pas pareil. La vibe est pas pareille. Puis même si c'est juste audio, vous l'entendez quand vous écoutez. Quand la connexion n'est pas là, la chimie n'est pas là. Je sais pas, moi, j'aime ça, des vrais êtres humains. Je suis pas un gars du virtuel.
Éric, on va certainement parler de politique aujourd'hui, mais j'ai le goût d'en parler un peu plus de l'être humain, parce que ce show-là sert à ça. On parle de sujets qui touchent les individus, du human interest, puis de temps en temps, on parle de politique puis de d'autres choses aussi. Toi, ta vie est entre Montréal et Québec constamment.
Tout le temps
sur la route.
Je suis tout le temps sur la route, mais pas juste, écoute, là... Quand je finis ici, là, après ça, je m'en vais à Victoriaville aujourd'hui. Là, donc, c'est pas juste Montréal-Québec. Puis après, demain, je m'en vais en Beauce.
Ouais.
Et après ça, je retourne à Laval. Puis je reviens à Québec, je pense, mardi. Fait que ça vous donne une idée dans 3-4 choses qui s'en viennent pour moi. C'est tout le temps. Je suis tout le temps dans mon char.
Mais j'ai l'impression que dans tous les jobs que tu as faits, mis à part quand tu travailles à la radio, tu t'es tout le temps promené.
Mais la politique, c'est beaucoup du produit. c'est faut que tu rencontres du monde. Faut qu'aller à la rencontre du monde, là, ouais. Téléphone puis vidéo, là, on n'était pas la génération des Zooms. Là. Fait que y a pas... Tu sais, oui, je me suis toujours promené, mais...
J'étais dans les autres pays aussi?
Oui, puis j'ai travaillé à l'étranger longtemps. Puis je sais pas, je dois aimer me promener, je crois, faut croire.
Comment t'en es venu à t'intéresser à la politique? Puis devenir un gars qui est un peu plus de droite?
Bien, intéressé à la politique, là, c'est une très bonne question parce que ma mère me rappelle, parce que j'étais même trop jeune, là, des fois je me dis, je suis né avec ça, j'avais tout ça dans mon ADN avant même d'être au monde. Ma mère me disait qu'à 12 ans, je revenais de l'école, puis je partais à courir pour être sûr de pogner la période des questions à la télé, là. Parce que la période des questions commençait à peu près quand je sortais de l'autobus scolaire à 12 ans.
OK.
Puis j'allais écouter ça. Puis à l'époque, c'était René Lévesque qui était premier ministre du Québec. Ça me rajeunit pas, là. Et je voulais aller écouter la période des questions live. Dans ce temps-là, ça passait à Radio-Québec. Puis c'est ça. J'avais ça à 12 ans. Puis avant ça, je sais pas, mais...
T'écoutais-tu la télé, t'écoutais-tu la radio, oui. Les bulletins de nouvelles et tout ça?
Oui, ah ouais. Tout. Puis mon grand-père, ça vient peut-être de ça aussi, mon grand-père était journaliste à la presse.
OK.
Politique.
Ouais.
Et donc, la politique a toujours fait partie de mon univers, dans le sens où, tu sais, d'un party, d'un souper de famille, ça parlait toujours de politique dans mon environnement. Fait que j'ai toujours... Je suis né là-dedans. Je suis né dans un univers où on me stimulait pour m'intéresser à la politique, même si mes parents sont pas très scolarisés, dans le sens où, tu sais, mon père, il travaillait dans la construction. C'est un ferblantier. Ma mère, elle chauffait des autobus scolaires. Et donc, mes parents, ils ont jamais fait de grandes études. Ils s'intéressaient un peu à la politique, mais beaucoup moins que moi. Mais c'était peut-être plus mon grand-père, en fait, qui était mon inspiration à ce niveau-là.
Puis, t'avais-tu... quand tu regardais les bulletins de nouvelles ou tout ça, tu nous as parlé de René Lévesque. Avais-tu d'autres personnes de cette époque-là qui t'impressionnaient en tant qu'individu?
Bien, pour parler de comment je suis devenu à droite, là, c'est Margaret Thatcher, qui était à l'époque première ministre britannique.
La Dame de fer.
La Dame de fer. Donc, oui, j'aimais beaucoup Margaret Thatcher. J'avais un poster de Margaret Thatcher dans ma chambre quand j'étais ado. Il y a des filles que... Il y a des gars qui c'était des filles tout nues.
Je vais me vendre, là, mais moi, c'était le premier poster de Samantha Fox.
C'est ça, je pensais. Touch me.
Quand elle était dans sa piscine, puis elle sortait de l'eau, puis il y avait comme une certaine fraîcheur, de ce que j'ai pu comprendre quand tu regardes la photo comme il faut. Fait que ça, c'était moi. Toi, c'était Margaret Thatcher.
Ouais.
Okay. Pourquoi tu aimais Margaret Thatcher? Parce que moi aussi, c'est une de mes idoles en politique.
Ah bon?
Ouais.
Je savais pas ça. Pourquoi j'aimais Margaret Thatcher? Parce que elle était ferme, elle était déterminée. C'était la seule femme ou à peu près dans un univers masculin.
Ouais.
Puis elle a jamais bronché. Même quand il y avait de la controverse, elle tenait sa ligne droite. Je trouvais que c'était une femme qui avait des principes, des valeurs. C'était ça qui m'avait initialement attiré vers elle.
T'avais l'impression, puis encore à ce jour, je pense que pour ceux qui l'ont suivi, là, cette dame-là était là pour les bonnes raisons. Puis si vous regardez le film, à un moment donné, je pense que c'est un de ses conseillers qui lui dit « Madame Thatcher, si on va vers là, on ne sera pas réélu. » Puis elle a dit tout simplement, moi, je fais ce qu'il y a de mieux pour mon peuple à l'heure actuelle, pas pour être réélu. Et ça, c'est une phrase qui m'a tellement marqué, Eric.
Puis c'est tellement pas... Ça fait tellement plus partie de l'univers politique aujourd'hui.
Non.
Puis je vais te donner un exemple très contemporain, puis on rentre un peu dans l'actualité politique, mais je pense que c'est important parce que tout le monde en parle présentement. C'est toute la guerre des tarifs avec les Américains. Cette question-là, là, on devrait tous être unis au Québec, au Canada. Puis il n'y a pas de raison de faire de la partisanerie politique avec ça parce que tout le monde est menacé. C'est nos travailleurs, c'est nos entreprises qui sont sur la ligne.
Ouais.
Quand le gouvernement canadien annonce qu'ils font des annonces là, pour faire peur au monde, il n'aurait jamais fait ça si on n'était pas en campagne électorale. Là.
Pour faire peur au monde, ben, tu parles des contre-tarifs?
Oui, non, non. Quand vous allez aux États-Unis, si vous visitez les États-Unis, ils ont fait un warning la semaine passée. Ouais. Là, tu te dis, attends une minute, là. Ils sont en train de délibérément faire peur aux gens. Puis là, je vais condamner ma propre famille politique conservatrice. Là. Doug Ford a intentionnellement déclenché une campagne électorale avec un an et demi avant la fin de son mandat parce qu'il a vu une opportunité de se faire réélire aussi fort, sinon plus.
C'était très stratégique de sa part.
En utilisant ça, puis en disant toutes sortes de choses. Puis souvent, c'était des folies. Là. Son histoire de vouloir taxer l'électricité, puis tout ça. Puis de, t'sais, nous autres, il voulait qu'on impose des tarifs, des doubles, des contre-tarifs, puis il est obligé de reculer. Rappelez-vous, il avait même menacé de ne pas envoyer de l'électricité à des communautés aux États-Unis.
Exact.
Tout ça, c'était pour faire de la politique. Puis au Québec, j'ai l'impression que François Legault aussi le fait, c'est-à-dire qu'ils veulent instrumentaliser la peur en pensant que ça va rapporter des dividendes politiques. Mais ce n'est pas ce qui est bon pour le Québec. Mmh. Ce qui est bon pour le Québec, c'est justement c'est le contraire. C'est de calmer les gens puis d'essayer de trouver une situation de compromis. Ce matin, le jour où on se parle, là, regardez dans le journal, c'est quoi, là? C'est leur joke avec le mot Trump, là. On se trompe, là. On se trompe, là.
Ouais. OK? Avec Trump, avec ça, on se trompe pas.
Mais si, là, on voulait défendre les intérêts du Québec, on n'essaierait pas de faire ça pour aller chercher le vote de ceux qui ont peur. On serait en train de faire des publicités aux États-Unis pour essayer de convaincre l'opinion publique américaine qu'ils n'ont pas intérêt à payer plus cher les produits qui viennent de chez nous. Puis la vraie guerre, elle va se gagner quand on va convaincre les Américains, pas quand on va faire peur au monde puis que la CAQ va monter dans les sondages. Mais malheureusement, la stratégie n'est pas... Puis, fait que, tu sais, c'est... Pour revenir à ta question de base, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins ça des hommes d'État, puis on voit de plus en plus des chefs de parti.
Puis tout est stratégique. Hein? Puis des fois, on se dit, mais pourquoi il s'en va vers là? Puis des fois, tu le comprends peut-être trois ou quatre jours plus tard, ou des fois, c'est quelques semaines. Mais effectivement, c'est un très bon point. On travaille beaucoup à faire peur aux gens plutôt que de commencer à travailler sur des solutions. T'sais, moi, à travers ces étapes-là de la vie, des fois, quand il arrive des affaires où tu dis, OK, attends un peu, là, on s'attendait pas à ça, on doit se mettre automatiquement en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Est-ce qu'on peut diversifier nos exportations? Parfait, on va créer des liens avec l'Europe. Parce que c'est tough, là. On a un grand frère à qui on avait confiance, Éric, puis je pense que c'était 80% des exportations qu'on a envoyées aux États-Unis. Puis finalement, ben, le grand frère ne veut plus être notre grand frère. Ce qu'il dit, c'est « T'as peur, tu vas voler tes propres ailes, toi. » Puis on est un peu dépourvu de ça. Puis au lieu de se revirer en disant « On va diversifier nos trucs », tout de suite, il y a une guerre contre Donald Trump.
Ouais. On a essayé de personnifier ça pour que politiquement, ça rapporte des dividendes.
Pour eux, exact.
Puis... Là, je vais te dire que peut-être que c'est... Moi, là, je vais le prendre de mon côté personnel. Là. C'est peut-être mon problème en même temps que c'est ma qualité. Là. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des principes, des idées puis des valeurs. Tu sais, gars, depuis petit cul que je tripais sur Margaret Thatcher, vous voyez qu'il y a quand même une continuité dans mes idées politiques. Là. On peut m'accuser de bien des choses, mais pas d'être quelqu'un qui a dévié beaucoup. Là. Mais souvent, je suis pas prête à faire... le compromis, parce que souvent, ça m'apparaît comme de la compromission. Puis il y a des affaires que, tu sais, je devrais peut-être politiquement, ça serait peut-être plus rentable si j'adoucissais quelque chose ou si je le disais de façon plus consensuelle. Mais je suis pas capable, tu sais, j'ai plus de difficultés à faire ça.
Tu y vas avec tes convictions.
Oui, mais c'est pas toujours le meilleur conseil en politique. C'est ce que je me rends compte, c'est que... Puis ça explique peut-être pourquoi on n'a pas de député aussi. Tu sais, des fois, je me dis, si j'avais dit telle affaire, tu sais, si j'avais pas dit telle affaire, si j'avais été moins plus vague, ou tu sais, est-ce que j'ai-tu fait perdre des candidats à cause de ça, là?
Mais tu sais, moi, tu vois, je suis... J'aime certains politiciens, mais j'aime pas la politique. J'aime pas les politiciens.
Oui, on t'aime pas la politique. Tu en manges la politique.
Oui, mais j'aime pas la politique, de la façon dont c'est fait quand c'est sale. T'sais, on parlait de Margaret Thatcher. Moi, Margaret Thatcher, elle était exceptionnelle à mes yeux. Elle avait des défauts aussi. Là. Mais ce que je vois là de la politique, je trouve que c'est très, très sale. Puis j'ai hâte au jour où on va revenir avec des gens qui, fondamentalement... vont respecter leurs valeurs à eux.
Mais on en a, là.
Quitte à faire des erreurs une fois de temps en temps, Éric, mais ma vision des choses à moi, puis ça m'appartient juste à moi, là, c'est j'ai hâte... Tu sais, je suis proche de personnes comme toi, là, puis que j'aime inviter à l'émission parce que j'ai l'impression que quand je t'entends parler, même si des fois je suis pas en accord avec toi... Tu ne nous bullshit pas. Le mensonge de voir que des maires ou des mairesses à la grandeur du Québec mentent, en sachant qu'ils mentent, ils mentent à la population pour être élus ou réélus. De voir que les députés font ça, ça me tue à chaque fois. De voir qu'un premier ministre peut le faire, ça me tue à chaque fois. Fait que quand tu me dis, tu sais, Yann, des fois, là, j'ai des valeurs, puis je me dis, mais. T'sais, je devrais être plus vague sur des affaires. Moi, je me dis, c'est ça que les gens voient en toi, Éric, c'est que. T'as des qualités, des défauts, comme tout le monde, soit dit en passant, mais tes propres valeurs vont faire en sorte que tu vas continuer de monter dans les sondages parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient plus de politiciens comme toi.
Mais moi, j'ai jamais regardé beaucoup. J'ai regardé les sondages. Là. Je peux pas dire que je regarde pas les sondages. Mais ça a jamais été ce qui a dicté mes choix. Puis je les regarde parce que t'as pas le choix. Tu veux savoir, mettons, OK, où est-ce qu'on a des chances, où est-ce qu'on n'a pas de chance, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est dans quelle région qu'il faut que j'aille, c'est bon. Mais... Quand je me suis lancé en politique, là, le parti était à 1 %. Je suis pas allé là parce que c'était bon pour les sondages, puis je pensais que j'allais me faire élire. Là. Quand j'ai décidé que je me présentais à chefferie du Parti conservateur du Québec, on avait 400 membres dans le parti, pas une scène dans le compte de banque, puis 1 % dans les sondages. Je suis allé parce que je me suis dit, ben regarde, je vais essayer de faire monter ça à 3 ou 4 %. C'était mon objectif initial.
Ouais.
Je savais que... Puis peut-être qu'on va être capable de trouver 125 candidats, mais je vais essayer d'en trouver le plus qu'on peut. Puis on va essayer de faire 3 ou 4 % parce que ceux qui pensent comme nous, ben au moins, on va avoir une option démocratique puis on va être capable de se regrouper. Parce que là, présentement, on est nulle part. Puis on a... Moi, je n'étais plus capable de voter pour aucun des quatre partis qu'il y avait là. Donc, c'était ça qui m'animait. Fait que c'était... Ça dépend pourquoi tu es en politique. Puis je regarde, tu sais, c'est niaiseux, là, mais... Cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu, là, mais j'ai levé mon chapeau à Ruth Hélène Brousseau. Puis Ruth Hélène Brousseau, là, je ne partage rien des idées là, qu'elle a. Okay? C'est une fille qui se présente avec le NPD dans Berthier-Montcalm ou Berthier-Masquinongé, maintenant qu'il faut dire.
Ouais, pour avoir la possibilité d'avoir un deuxième mandat.
Oui, mais elle a déjà été élue là, ouais. dans Vague Orange. C'est la fille là, qui était à Las Vegas pendant une campagne électorale, qui était une fille d'Ottawa, qui avait été parachutée là-bas, qui ne parlait pas français, mm-hmm. qui était de, c'était comme une joke. Puis elle a été élue le soir des élections quand il y a eu la Vague Orange. Puis tout le monde, on s'était moqué. Moi, j'étais dans les médias à l'époque, on se moquait tous d'elle. Puis finalement, je suis obligé de dire qu'elle a fait un bon travail comme député.
C'est ce que les citoyens de cette circonscription-là ont dit, c'est qu'au départ, il n'était pas ça. Finalement, ça a été la meilleure députée qu'il y avait eu.
Elle a appris le français.
Ouais.
Elle a rencontré un gars du coin, un agriculteur. Est allée, elle s'est impliquée dans les dossiers locaux. Elle est une bonne parlementaire mm-hmm. à Ottawa. Et qu'elle veuille se représenter alors que son parti est en chute libre d'un sondage, alors que son chef est très impopulaire, j'ai trouvé que, wow! Tu sais, ça m'a... Je suis pas d'accord avec elle, là, mais je trouve que ça m'a redonné confiance en politique un peu, puis ça enlève un peu de cynisme de voir. Alors qu'au Parti libéral, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du monde qui avait annoncé que des ministres même qui se représentaient plus. Puis là, ils ont vu les sondages remonter. Oh! Il y a même des comtés, ils ont tassé le candidat qui avait choisi pour les remplacer. Ils ont tassé, puis ils se représentent.
Je peux avoir ma job pendant 4 ans?
Ah ben finalement, je pourrais peut-être rester un autre 4 ans. Mais ah ben là, je voulais m'en aller, ben je voulais pas perdre. Mais là, si je pense que gagner, je vais rester.
La pension va être là.
Puis, ou des gens qui... puis ici, on a eu Gertrude, qui a été un exemple là, au Québec.
Gertrude Bourdon.
Bourdon, qui se magasinait son comté en fonction des partis.
Puis elle, c'était une grande gestionnaire d'hôpitaux. Puis ce qui est particulier, c'est quand elle a démissionné de son poste pour devenir politicienne, ça n'a pas fonctionné pour elle. Elle a voulu ravoir son poste.
Son ancien poste.
Puis finalement, elle n'a pas été prise.
Mais avant, mais quand elle a voulu se présenter, elle est allée rencontrer différents partis politiques. C'était une péquiste.
Exact.
Qui est allée magasiner à CAQ puis qui a fini au Parti libéral.
Cherchait une job.
Puis elle était en fonction des sondages puis qu'est-ce que le chef était prêt à y promettre. Puis il y en a beaucoup comme ça. Et ça, ça me décourage tout le temps. Même moi, à la dernière élection, je n'ai pas fait de cas, là, mais il y a des candidats qui étaient venus me voir puis qui avaient un intérêt à se présenter pour nous. Puis quand c'est arrivé les élections, j'ai vu leur nom sur un autre bulletin de vote, pour un autre parti sur le bulletin de vote.
Ouais.
Fait que là, tu te dis, OK, tu sais, c'est... C'est triste, mais ces gens-là, ils donnent une mauvaise réputation à la politique.
Ouais. Puis, tu sais, il y a d'autres éléments qui me permettent de me dire qu'Éric Duhaime, c'est un gars de conviction. Tu sais, tu travaillais à la radio, ça allait super bien pour toi. On t'entendait ouais. au 98.5 à Montréal. On t'entendait au 93.3 à Québec. Tu gagnais un salaire qui était quand même assez élevé.
Tu sais quand de quoi j'ai... je parle, hein? T'étais dans la radio, tu sais comment est-ce qu'on est payé.
Quand j'ai su que tu t'en allais en politique, je me suis dit... Il est fou. Il va perdre de l'argent épouvantable. Ça a dû être une décision... Bon, vous l'avez pris à deux, cette décision-là, oui. mais ça devait être une décision stressante un peu au départ.
Écoute,
là.
C'est pire que ça, Yannick, parce que pendant 2 ans, j'ai choisi... Puis le parti était prêt à me payer, mais j'ai choisi d'être bénévole.
Ouais.
Fait que pendant 2 ans, j'ai eu aucun salaire. Puis c'est un choix qu'on avait pris à deux, t'as raison, parce que tu peux pas prendre cette décision-là si tu veux rester avec ton chum
ouais.
Seul. Donc, on a convenu que, OK, pendant 2 ans, on va faire le sacrifice de pas avoir de revenus.
Hey, c'est tough, là.
C'est long. Puis les billes continuent à rentrer, là. Et donc...
Puis là, tu laissais de côté ton mois à peu près de vacances au mois de décembre.
Puis mon début mois janvier, de vacances en été.
Et après ça, ton mois ou ton 6 semaines en été à radio...
Plus le salaire, plus les
plus pubs, les
plus
bonus.
Les bonus, plus. Rappelle-moi les pas. mais j'ai jamais... Ça, c'est l'autre affaire. J'ai jamais été animé par les sondages, puis j'ai jamais été animé non plus par l'argent. Et puis là, tu sais, je vais faire une confession, là, j'ai plus peur, comme diraient mes amis, j'ai plus peur de la fin du monde que la fin du mois. Là. Fait que tu sais, j'ai quand même réussi à avoir une indépendance financière au fil du temps.
Parce que tu as travaillé pour, tu as fait beaucoup
travaillé
de rénovation.
J'ai rénové, j'ai investi. Puis je suis pas un gars qui dépense beaucoup par rapport aux revenus que j'ai fait. Donc, j'ai toujours mis de l'argent de côté. J'ai évidemment pas d'enfant, pas de famille. Ça aussi, ça compte. C'est... J'ai pas de divorce non plus en arrière de la cravate. Ça aussi, ça compte. Donc, le... fait qu'autrement dit, j'ai tout fait les bons choix. Puis ça m'a donné une indépendance. Puis cette indépendance-là, c'est peut-être la chose... la... Puis ça, c'est pas vrai juste à la radio. Là. C'est vrai puis pour les personnalités publiques. C'est vrai pour tout le monde qui nous écoute. Là. Moi, pour moi, c'est ma plus grande richesse. Là. C'est pas mon... le signe de pièce dans mon compte de banque ou de mes actifs. C'est le fait que je suis indépendant. Puis c'est pas l'indépendance financière, elle m'a donné l'indépendance personnelle. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important d'accumuler une richesse. Parce que je serais pas parti de la radio si j'avais pas eu cette indépendance-là. Puis tu le sais, je suis parti dans un contexte de crise que personne n'avait vu venir.
Ouais.
Moi, ça allait contre mes valeurs, ce qui se passait au Québec à ce moment-là. J'aurais pas été capable de continuer à défendre ça. J'avais beaucoup de difficultés.
Est-ce qu'on t'obligeait à le défendre?
Non, mais écoute, malheureusement, là, à l'heure où avait mon émission se passait, là, j'étais obligé de passer, j'appelais ça les conférences de prêche de François Legault à tous les jours.
Ouais.
Rappelle-toi qu'il nous faisait ça avec le docteur Arruda.
Il n'y a rien de mal à l'appeler comme ça.
Non, mais c'est pas juste ça. C'est que j'étais très critique. Puis à un moment donné, on m'a fait comprendre, écoute, Éric, puis il y avait plus, rappelle-toi, on n'avait plus de publicité.
Ouais.
On était rendu que nos salaires étaient en partie payés par
le gouvernement.
Les seules annonces qu'on avait, c'était le gouvernement qui disait qu'il fallait se tousser d'un coude puis il fallait se laver les mains parce qu'il n'y avait plus de resto d'ouvert, il n'y avait plus de concessionnaire ouvert, il n'y avait plus aucun commerce d'ouvert ou à peu près. Et là, on m'a dit, ben gars, tu sais, c'est pas une bonne idée nécessairement de parler contre le seul qui nous envoie encore de l'argent présentement. Puis moi, je leur ai répondu, ben vous ne me payez pas assez cher pour que je dise le contraire de ce que je pense.
Mais t'sais. C'est tout à ton honneur, encore une fois. Puis, oui, mais tort ou à raison, la question
pas,
est pas
Yann,
là.
J'ai zéro mérite, parce que j'aurais pas été capable. J'étais,
ouais, mais c'est ça, mais
physiquement, j'aurais pas été capable.
Mais de te faire dire quoi dire, je veux dire, il n'y a pas. Quand tu es dans les médias, tu dois. Le seul devoir que tu as, c'est d'être honnête envers tes auditeurs. T'as
ça
pas besoin, d'être, t'as
ça
pas besoin d'être parfait.
Non.
T'as pas besoin d'être parfait. Puis, tu sais, moi, c'est souvent ce que je dénonce là, dans ce merveilleux métier où on est, c'est que il y a de l'influence extérieure qui contrôle des fois la parole des gens qui prennent le micro. Et ça, je trouve ça d'une tristesse incroyable. J'avais la chance de travailler pour une station de radio. En fait, j'ai encore cette chance-là. Mais à l'époque de la pandémie, qui nous disait, vous savez quoi? Allez-y avec vos convictions. Ça se peut que vous ayez des questions. Posez les questions ouvertement au gouvernement sur les ondes. Je trouvais ça formidable à l'époque de la part de mes patrons. Puis les patrons que j'ai retrouvés ici, que ce soit à Montréal ou à Québec, c'est les meilleurs patrons du monde entier parce qu'ils sont dans cette lignée-là aussi. Vous avez le droit de vous tromper parfois, mais allez-y toujours avec vos convictions. Mais c'est encore là où je retrouve un Éric Duhaime qui y va constamment avec ses convictions.
Mais je voulais pas, je veux pas blâmer mes anciens employeurs. Là. Au contraire. Parce que je les comprends. Puis, à la limite, je voulais pas non plus nuire à la station, puis encore moins à mes collègues de travail, parce que je savais que mes opinions étaient controversées pour le gouvernement. Puis j'avais vu qu'il y avait, à une autre station, il avait décidé de couper les publicités. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là.
Oh oui.
Il avait coupé les publicités d'une autre station parce qu'il trouvait que c'était pas dans le narratif du gouvernement.
Ben, il voulait carrément nous tuer.
Puis je savais que si moi, je continuais, probablement qu'il serait arrivé à la même affaire avec nous autres. Là. Tu sais, que je m'en aille. Puis je me disais... tu sais, des fois, faut faire de la... faut se mettre des souliers des autres, là. Puis je me disais, si j'étais un boss à la station, là,
ouais.
La première chose que je voudrais, là, c'est que des gars comme moi se ferment la gueule. Puis... Mais non, mais c'était logique, là.
Oui, puis non.
Tu dis, là, regarde...
Moi, ce qui est important, c'est que toi, la décision que tu as prise, Moi, je pense que c'était la bonne décision à prendre. Mais c'est ça, tu sais, au niveau monétaire, je me disais, tabarouette, il quitte cette antenne-là.
Ça a pas été... Financièrement, ça n'a pas été un bon
alors
coup.
Alors que ça allait super bien pour lui, pour sa carrière. Tu sais, je regarde Mario Dumont, là. Une fois qu'il a lâché la politique, il est allé dans les médias.
Ça va pas mal mieux financièrement.
Il a commencé à faire de l'argent puis espérer un jour pouvoir prendre sa retraite. Toi, t'as fait le chemin contraire dans un parti qui était à 1% des intentions de vote, mais vous avez réussi à créer quelque chose de magique. Là. Bon, vous n'avez pas réussi à faire élire de députés aux dernières élections, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a au-dessus de 500 000 personnes à travers le Québec qui ont voté pour vous autres.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à Montréal, ça va moins bien? Éric Duhaime avec le Parti conservateur?
Bien, pour les mêmes raisons que ça va toujours mal des partis un peu plus à droite dans la région Montréal, ça va être vrai aussi aux élections fédérales dans deux semaines et demie.
Montréal est plus axé sur la gauche, Québec serait plus axé sur la droite économique?
Ça a toujours été comme ça. Là. Je pense, ouais. Je me souviens pas que c'était le contraire. À Montréal, il y a un noyau de résistance. Puis il y a aussi le fait, oublions la Montréal-Québec. Il y a région versus le reste du Québec aussi, là, versus les villes. Historiquement, partout en Occident, vous allez voir que les partis plus à droite, plus conservateurs, performent toujours mieux en région que dans les centres urbains. Puis il y a des raisons normales puis sociologiques pour ça. Quand tu habites dans une grande ville, tu sais, t'es plus habitué d'entendre ton voisin te marcher sur la tête. C'est normal de prendre le métro ou de marcher pour aller quelque part. T'as beaucoup plus d'interactions, t'as moins de quiétude que t'as quand t'habites dans une région. Veux dire, ouais. Le mode de vie n'est pas le même rythme non plus.
En ville, tu bénéficies peut-être plus des services de l'État, que ce soit au municipal, au provincial, oui. Puis au fédéral.
Oui, puis tu travailles, c'est ça, c'est plus collectif. Veux, veux pas, tout est collectif. Tandis ouais. qu'en région, c'est un peu plus individuel. Puis il y a des raisons géographiques là, pour ça. Là.
Ouais.
Mais ça, je pense que ça forge une mentalité puis une idéologie politique aussi. Là.
Puis j'ai vu en Beauce aussi que le Parti conservateur performe bien en Beauce.
C'est notre meilleure région, en, ouais. ferme, en fait.
L'endroit où il y a le plus d'entrepreneurs au pied carré.
Là. C'est ça. C'est là qu'il y a le moins de gens qui sont dépendants de l'État.
Ouais.
Ça, c'est une autre affaire. Et donc, puis je sais pas, tu sais, le rêve américain traditionnel, là, c'était d'avoir ton espèce de ranch ou ton grand terrain avec ta maison, puis avoir ton puits, puis être autonome à plusieurs égards.
Mais mon rêve, moi, c'était Yellowstone.
Puis avoir ton truck ou ton pick-up. Là,
ouais, ouais.
Puis, pour bien du monde d'entre nous autres, là, ça symbolise la liberté.
Ouais.
Dans un 3,5 à Limoilou, à prendre l'autobus, ça symbolise pas nécessairement non. ça.
Tu sais, puis quand j'étais à Montréal, sur Sainte-Catherine, j'habitais dans un petit appartement. Puis, tu sais, moi, j'ai habité à Québec, j'ai habité à Montréal, puis j'étais tout le temps au centre-ville de Québec. Mais le jour où je suis sorti en campagne, puis je me suis acheté un petit chalet sur le bord de l'eau, Éric, où je me suis dit, tiens, c'est ici que je vais vivre 12 mois par année. Ça a été la plus belle décision de ma vie. Mais j'avais plus de service du municipal, ou très peu, plus de service du provincial. Fallait que je me déplace. Fait que je comprends un peu ce que tu veux mentionner. C'est-à-dire qu'en ville, c'est plus collectif.
Mais oui.
Tandis que quand tu es à l'extérieur, tu n'as tellement pas accès à rien que tu te dis, mais pourquoi je paierais pour quelque chose que je bénéficierais, que j'aurais jamais dans mes poches?
Il y a peut-être, je sais pas si c'est tout le monde est de même, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les villes. Tu sais, quand on est jeune, on va aller voir des spectacles, ouais. on va aller prendre des bières avec nos amis, on veut qu'il y ait du bruit, on veut qu'il y ait du monde, on veut fêter. Plus je vieillis, plus j'apprécie les régions. Plus j'apprécie d'avoir l'espace, la quiétude. Fait que je pense qu'il y a un cycle de vie aussi qui vient avec. Là.
Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que les jeunes hommes de 18 à, mettons, 35 ans, 40 ans, commencent à être de plus en plus attirés par le Parti conservateur, que ce soit par le Parti conservateur du Québec, puis j'ai vu les sondages pour le Parti conservateur du Canada, qu'est-ce qui fait qu'il y a une oreille plus attentive maintenant qu'on n'avait pas avant?
Ça, c'est une autre très bonne question, parce qu'avant, c'était le contraire. Si tu regardes à l'époque de Mulroney, ou même avant ça, les gens qui étaient les plus conservateurs, c'était les plus âgés.
Ouais. Hein?
Puis plus tu vieillissais, on disait, si t'as 20 ans, t'es pas communiste parce que t'as pas de cœur, puis si t'as 40 ans, tu l'es encore, c'est parce que t'as pas de tête. T'sais, c'était comme la maxime qui était bien connue, là, que c'était le cycle naturel de la vie. Là. Si t'as 40 ans, t'étais rendu, que t'étais encore communiste, t'étais vraiment perdu dans ta tête. Là. Donc, aujourd'hui, c'est rendu l'inverse. Moi, je pense pas, les jeunes n'ont pas changé. Les valeurs n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la réalité. Parce que qu'est-ce qu'un jeune à 20 ans, il veut? Il veut avoir un avenir meilleur. Il veut s'acheter une maison. Il veut avoir une femme. Il veut avoir des enfants. Il veut une bonne job bien payée. Il veut pouvoir voyager un peu. Il veut des choses que toutes les jeunes ont voulu quand ils ont eu cet âge-là. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, t'acheter un char, c'est mal vu. T'acheter une maison, c'est pas abordable. Te marier, fais attention parce que tu veux pas te ramasser dans le trouble. Le plaisir historique pour les jeunes aujourd'hui, la gauche l'a comme vampirisé puis l'a comme étouffé. Puis la droite propose encore le modèle traditionnel. Puis la majorité, c'est ça qu'ils veulent. Et donc, il y a un mouvement de ces jeunes-là qui votent de plus en plus conservateurs. Puis les personnes âgées, c'est le contraire. De plus en plus, bien, eux autres, ils veulent garder leur sécurité financière, ils veulent avoir la paix.
Ils veulent pas perdre leurs acquis.
Fait que c'est ça. Ils veulent que rien change. Et donc, ceux qui étaient... Tu sais, c'est ça. Moi, le nom de mon parti, c'est conservateur. Mais en fait, on est le parti qui propose le plus de changements. Puis les conservateurs, c'est les quatre autres partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. C'est eux autres qui se battent pour que le modèle change. Eux autres, c'est « Ne touchez pas à notre modèle ». C'est un peu ça leur slogan. Mm-hmm. Et donc, c'est il y a eu un gros, gros renversement des rôles ces dernières années au Québec, puis pas juste au Québec, en Occident. Puis vous allez le voir au fédéral. Aux élections fédérales, là, prenez n'importe quel sondage qui sort, même ceux qui sont les plus pourris pour les conservateurs à l'heure actuelle, si les 65 ans et moins étaient les seuls à voter, il n'y aurait même pas d'élection cette année.
Conservateurs passent à la grandeur du Canada. Ouais.
Si c'est les 65 ans et plus qui votent seulement, il n'y a pas d'élection, il va y avoir juste des députés libéraux à grandeur du Canada.
Puis est-ce que vous avez un plan au Parti conservateur du Québec de parler un peu plus aux personnes âgées, de les rassurer, de parler un peu plus aux femmes aussi?
Oui, c'est sûr qu'il va falloir trouver ça, mais honnêtement, c'est pas si simple que 100 $. C'est facile de dire, c'est ça notre problème, c'est ça qu'il faut qu'on trouve des solutions.
Oui, parce qu'il ne faut pas que tu perdes ta base non plus.
Bien, il ne faut pas que tu perdes ton identité et ta raison d'être.
Exact.
Moi, je suis un gars qui a écrit l'État contre les jeunes il y a 15 ans. Comment les baby-boomers ont détourné le système. Okay? Je peux pas renier que j'ai écrit ça. Là. Puis moi, je l'ai vu venir, comme l'ADQ l'avait vu venir, comme plein de monde de la génération XY avait vu venir le mur dans lequel on est aujourd'hui. Là. On voyait que ça n'avait pas de bon sens de continuer à endetter le monde. On voyait que ça n'avait pas de bon sens un système de santé avec une croissance des coûts de 5, 6, 7 par année avec une population vieillissante. On voyait que les régimes de retraite allaient commencer à se vider. On voyait tout ça, là. Et on se faisait dire à l'époque, ben non, ça n'arrivera pas, vous êtes pessimiste, blablabla. Malheureusement, le temps nous a donné raison. Puis il y a des gens que veut pas. Tu peux pas faire d'omelette sans casser deux quand tu fais de la politique, là. Tu peux pas faire juste des gagnants. Il y a des gens là, qui vont être obligés, au nom de l'équité intergénérationnelle, de faire des sacrifices. Puis il faut qu'on le dise.
Oui, puis à chaque fois, quand je jase avec les auditeurs, puis j'ai la chance d'être proche de mes auditeurs, fait que c'est bien le fun. Quand il y a des budgets, là, puis des nouveaux trucs qui sont annoncés pour les gens, c'est tout le temps les familles qui sont ciblées. Mais tu as la personne seule, qui habite seule, qui, lui, a jamais rien. Il a jamais de break. Il paye pour
tout
le monde.
Il est pas bien vu, lui.
Puis s'il est en bonne santé, il va jamais à l'hôpital. Fait que il paye en plus pour les hôpitaux alors qu'il y va pas. C'est tough pour ces gens-là. Là.
Mais je vais te donner un autre exemple. La dernière élection, François Legault envoyait des chèques aux personnes âgées.
Ouais.
Tu te souviens de ça?
Oui. Ils ont acheté.
Moi, si mon compte. Même, tu sais, demain matin, tu me dirais que c'est facile, prochaine élection, on fait pareil. Jamais. Ça va avec ce qu'on disait tantôt, là. Jamais, je pourrais accepter ça.
Mais si tu l'expliques, tu dis, savez-vous quoi? L'idée, là, c'est que je pourrais tout vous acheter avec des chèques comme le gouvernement précédent l'a fait.
Mais ça a marché.
Le problème étant qu'à partir du moment où j'envoie des chèques, je vais nuire à l'économie puis on va être encore plus dans le trouble. Faut juste dire la vérité. Les gens sont capables d'accepter
fait,
la vérité.
Ça, mais je l'ai fait du porte-à-porte. Tu sais ce que je me faisais dire?
Non.
Monsieur Legault, lui, va m'envoyer un chèque. Vous, qu'est-ce que vous me donnez?
Ah, il pense juste à eux.
Qu'est-ce que tu veux que j'y réponde?
Tu peux pas gagner.
Madame, votez Legault. Je peux rien dire d'autre. Là. C'est comme, garde, moi, je t'achèterai pas, je te signerai pas un chèque.
T'es encore gentil.
C'est pas vrai que je vais endetter tes enfants et tes petits-enfants pour gagner mes élections.
C'est ce que j'allais
ça
dire.
Ça m'intéresse
t'es
pas.
T'es encore gentil parce que moi, vous savez quoi? Le chèque que vous allez avoir va nuire à vos enfants et vos petits-enfants. Passez une belle journée, madame, votez Legault. Je comprends tout ça. J'ai beaucoup aimé, puis c'est drôle parce que tu mets beaucoup de slogans à tes trucs. Là. J'ai beaucoup aimé quand t'es venu me voir avant hier. Puis t'as dit, ben en fait, t'as fait la tournée médiatique, là. Écoute, t'étais en entrevue avec moi, puis tu prenais ton dîner, parce que je pense que t'avais pas encore mangé depuis le matin. Ton fameux slogan, « Prends ton gaz égal ».
Oui.
Y a des gens qui ont ri de ce slogan-là, puis en même temps, moi, j'aime ça, parce que c'est comme un trademark du Parti conservateur. C'est quand vous partez quelque chose, il y a quelque chose qui est mis en place que tu vas te souvenir. Puis là, « Prends ton gaz égal ». On se rend compte qu'en Ontario, actuellement, si vous êtes à Ottawa, v'là deux jours, le prix de l'essence était à 1,08 du litre. Puis nous autres, au Québec, on était autour d'$1,40, $1,50. Je veux dire, ça touche directement les gens. Là.
Direct dans le portefeuille à tous les semaines ou à tous les trois jours, quatre jours, quand ils vont le plein. Puis les slogans, pour revenir à « Prends ton gaz égal », mais écoute, moi, les gens rient de nous, là, c'est pas grave. Là. Écoute, si j'avais peur de faire rire de moi, je ferais d'autres choses dans la vie, là. Mais on avait, si tu te rappelles, l'année passée, on avait parti le slogan « Mon char, mon choix ». Puis ça aussi, tout le monde riait de nous autres. Ça avait été très controversé.
Ouais.
Mais il y a combien de partis politiques qui partent un slogan puis que ça se ramasse au bye-bye puis dans la revue de l'année d'Infoman? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? On a réussi à faire les deux cette année. Là. Et moi, je suis très fier de nos slogans parce que ça dit ce que ça a à dire. Quand on voulait que les gens puissent choisir s'ils veulent acheter une voiture électrique ou au gaz, puis qu'on a dit « Mon char, mon choix », ça a touché l'imaginaire puis ça a fait jaser. prends ton gaz égal, c'est une expression qui est hyper familière au Québec.
Ouais.
C'est un message qu'on envoie à François Legault en disant « calme-toi avec tes taxes sur l'essence ». Puis c'est aussi « prends ton gaz égal », ça veut aussi dire qu'on veut que les Québécois aient accès au gaz au même prix que les Ontariens. Là. Donc, je trouvais qu'il y avait une double signification qui était intéressante, puis tout le monde va s'en rappeler.
Puis au niveau des journalistes, as-tu été bien perçu?
Mieux que mon char, mon choix, ouais. Parce que là, ils commencent à être habitués avec nos slogans.
La couverture a bien été?
Ben oui, puis non, parce que je sais pas si tu as vu, mais hier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en faveur de la bourse carbone puis de la taxe carbone. Donc, notre message est évidence, il n'a pas convaincu les députés à l'Assemblée nationale.
Mais ils ont peur de quoi?
Ils l'ont fait en réaction à nous. Là. C'est pas, on est sorti mardi, mercredi, l'Assemblée nationale vote, les quatre partis.
Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de qui? Advenant le cas où tu enlèves ça comme ça a été enlevé à la grandeur du Canada... Ils ont peur de qui?
Bien, ils ont peur des groupes écologistes de Montréal qui vont sortir pour les dénoncer. Ils ont peur de se faire dire qu'ils sont pour la pollution, qu'ils sont sales, qu'ils sont pour l'industrie du pétrole. Je sais pas, là, ça va tout ensemble pour eux autres. Là. Fait que,
c'est le côté
de la
là.
Vertu. C'est de la côté de la vertu.
Je comprends, mais ces lobbyistes-là qui tend à faire pression sur nos politiciens. Il te croise-tu une fois de temps en temps? Vous sentez-vous menacé? Je suis Satan.
Non, mais tu comprends qu'ils viennent pas me voir là, pour eux autres. Je suis le diable réincarné, mais le. Il y en a des fois qui viennent me jaser un petit peu, là, mais c'est pas. Non, ils font pas leur lobby. Ils savent qu'avec nous, c'est peine perdue.
Parce
là.
Que si tu veux aider le citoyen, parce que tu sais, il y a de bons journalistes, puis il y a des journalistes qui sont un peu louches. Malheureusement, les louches sortent toujours de la même université à Montréal. Mais tu sais, je lisais un journaliste qui, lui, était à 2 minutes de l'Ontario. Il traverse le pont, puis il était en Ontario. Puis lui, il disait qu'il allait se faire un point d'honneur de continuer de mettre de l'essence au Québec parce qu'il veut continuer de mettre de l'argent dans le fameux fonds vert. Ce fonds vert-là sert au gouvernement pour aller s'acheter des votes dans des régions. On en parlait avant hier. T'sais, moi, l'histoire qui m'avait marqué avec le fonds vert, c'est la fameuse clôture qu'on avait payée au Gabon. Pour pouvoir aider les gorilles.
Clôture électrique.
Une clôture électrique pour pouvoir aider les gorilles à rester dans leur enclos. Puis là, c'était le fonds vert. C'était moi qui avais payé ça avec mon argent au Québec.
On allait faire le plein à Saint-Lambert-de-Lauzon.
Oui, exact.
Parce que c'est là que l'essence est moins chère dans la région.
mais exact, c'est ça. Tu dis, voyons donc, tabarouette, je ne comprends pas comment un journaliste peut avoir cette réflexion-là. Moi, là... Je gagne tellement bien ma vie que je vais vous faire la morale, bande de minables. Je suis à 2 minutes de l'Ontario, puis je vais continuer à payer une surtaxe sur l'essence au Québec parce que je veux que mon argent aille dans le fonds vert. Et où ta réflexion? Mais... Si tu le fais réellement, c'est correct, tu as des valeurs fondamentales. Mais je suis pas mal persuadé, Eric, que ce gars-là, il va traverser le pont une fois de temps en temps pour aller économiser de l'argent l'autre bord. En hypocrite. Ben oui, bien sûr. Sont souvent comme ça. Là.
C'est sûr que c'est facile la vertu dans le discours, mais quand il arrive le temps de voter avec ton portefeuille, des fois, ça change de côté. Là. Mais à la limite, il a le droit, je veux dire. Puis à la limite, il pourrait donner de l'argent encore plus au gouvernement. Il pourrait envoyer avec son rapport d'impôt. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche d'envoyer plus d'argent à la fin de l'année. Hein. D'ailleurs, mm-hmm. Tous les auditeurs que ça l'intéresse, là, vous pouvez, là, vous devez, je sais pas, à la fin de l'année, 500$ à l'impôt, vous pouvez leur envoyer 5 000. Jamais qu'ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit de leur donner d'argent. Là. Fait que ceux qui aiment ça, vous en contribuez en plus. Mais l'idée, c'est de dire, regarde, pour les autres, là, on est en train de mettre l'économie du Québec à terre. On est en train de se donner un désavantage comparatif pour absolument rien. Il n'y a pas de résultat avec un fonds vert. Les émissions ont baissé de 0,7% au Québec dans les 10 dernières années. On a mis 10 milliards là-dedans. Ça représente, au niveau des émissions à l'échelle mondiale, 0,001% des émissions. C'est 0,001%. Puis nous autres, on a payé 10 milliards, puis les autres autour, tous nos voisins, ils ne payent pas une scène. Oui, on est-tu fou à temps plein? Si on était les dindons de la farce assez longtemps.
Oui, puis tu sais, de voir François Legault qui commence à être de plus en plus ouvert à exploiter les ressources québécoises, alors que vous autres, vous ne l'avez jamais nié. Là. Avec un gouvernement conservateur du Québec, on exploiterait nos ressources, puis on ferait de l'argent avec ça. Peut-être que ça serait plus concret, Éric, si le Parti conservateur, puis bon, si tu le fais, je charge 10%. Là. Mais si tu calcules, qu'est-ce que ça pourrait donner à chaque famille, si on exploite notre pétrole ou encore notre gaz naturel, qu'est-ce que ça pourrait donner en bout de ligne? Parce que en Alberta, ça va assez bien, là,
ça
l'exploration
va très bien.
Du pétrole. Là.
Écoute, ben, juste par exemple, si on sortit la bourse du carbone, là, c'est un exemple très concret là, pour un automobiliste moyen ou pour une famille moyenne, ça représente 1500$ par année. OK? Mais 1500$ par année pour du monde, c'est bien des épiceries. Là. Puis pour les gaz à effet de serre, écoute bien ça. C'est Adrien Pouliot qui a fait le calcul ce matin, puis je trouve ça super intéressant. Évidemment, je vous ai parlé du 0,07%, là, mais si on décidait à la place d'exploiter notre gaz naturel au Québec, donc on créerait des jobs à 150 000 $ là, puis à 100, comme en Alberta.
Exact.
Là, on réduirait de 11,2% nos gaz à effet de serre au Québec parce qu'on exploiterait ce gaz-là vers des centrales qui présentement fonctionnent au charbon ailleurs dans le monde, puis on réduirait leurs émissions de 60%. Donc, on aurait un impact environnemental 16 fois meilleur que de mettre 10 milliards dans le fonds vert. Fait qu'on ferait de l'argent avec notre gaz naturel, puis on aurait un impact 16 fois mieux pour l'environnement.
Ouais.
Mais à cause du discours écolo dominant puis des quatre partis qui ont peur à l'Assemblée nationale devant ça, bien, on fait le contraire. On paye 10 milliards pour 16 fois moins de résultats, puis on empêche le Québec d'exploiter la plus grosse réserve de gaz naturel non exploitée au monde.
Puis c'est triste.
Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus pour convaincre le monde.
Ben, en fait, il faut juste... J'allais donner un exemple qui est mauvais ces temps-ci, là, mais il faut juste que tu le mettes sur un carton. Puis tu l'expliques aux gens. Voici ce qui va vous rester dans vos poches à la fin de l'année si vous votez pour le Parti conservateur du Québec. Faut que ce soit concret pour les gens. Les gens n'aiment pas ça, se casser la tête, j'ai l'impression. Puis de voir que François Legault dit, ben là, si la population est derrière nous, je vais peut-être ouvrir la porte à exploiter nos ressources. La population n'a jamais été contre exploiter ces ressources. C'est les lobbies qui sont autour qui font peur à notre gouvernement à chaque fois.
Puis tantôt, tu as parlé là, du fait que, tu sais, tu as parlé de notre grand frère, puis de notre relation avec notre grand frère qui veut qu'on soit un petit peu plus autonome. Bien, ça, c'est un exemple concret, là. C'est une claque sur la gueule qu'on vient d'avoir. Puis, tu sais, les gens réalisent pas. Je suis sûr que 99% des gens qui nous écoutent présentement savent pas ça, là. Mais 100% du pétrole que vous mettez dans votre char, 100% du gaz naturel que vous utilisez chez vous, votre four ou d'autres choses, là, 100% provient des États-Unis. OK? Ça, c'est pas produit nécessairement aux États-Unis, mais même quand ça vient de l'Alberta, ça passe par les États-Unis pour les gazoducs et les oléoducs, parce qu'au Canada, on n'a aucune ligne qui part de l'Ouest puis qui s'en vient vers l'Est. Fait que si demain matin, Donald Trump ou n'importe quel autre président après lui là, décide que le Canada, on les aime pas, sont pas fins puis on ferme le robinet, bien, oubliez ça, vous pouvez plus mettre ni à Montréal, ni à Québec, ni nulle part au Québec, vous pouvez plus mettre une goutte d'essence dans vos chars. Puis, on s'est mis dépendant, on leur a donné là, notre... on s'est mis le pieds et poings liés aux Américains pour absolument aucune raison. Pourquoi on est capable au Québec d'être autonome? Là?
T'es-tu souverainiste?
Ben je suis souverainiste, non. Dans le sens, je crois plus au mouvement péquiste, mais j'ai pas de problème à ce que le Québec soit plus autonome. Moi, j'aimerais ça qu'on soit plus autonome. Je pense que... oui, il y a le fait que notre langue, notre culture, tout ça... Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Puis ça, c'est un bel exemple. Moi, j'aimerais ça que le Québec soit autosuffisant en matière énergétique. Mmh. J'aimerais ça qu'on soit capable au Québec de dire, regarde, on n'a pas besoin des Américains, on est capable, nous autres, de se fournir nous-mêmes. On a assez de l'énergie.
Puis est-ce que tu considères que le Québec, quand il reçoit une péréquation, on devrait être honteux de ça?
Oui. Pour moi, c'est de l'aide sociale.
Même si on a donné pendant des années, puis à un moment donné, ben, le vent a tourné, puis ça a fait en sorte que l'argent venait plus de l'Ouest que de l'Est.
Si c'était conjoncturel, je dirais OK, mais c'est structurel le problème.
Ouais.
C'est ça, Yann, le problème, là, c'est que on vit au crochet du reste du Canada depuis trop longtemps, puis on n'a pas de solution pour s'en sortir. Puis François Legault, il est arrivé là en nous disant qu'il allait améliorer les choses, puis c'est pire que ça n'a jamais été. On n'a jamais été aussi dépendant de l'argent qui vient de l'extérieur du Québec. Puis la vraie autonomie, la vraie indépendance, la vraie souveraineté, appelez ça comme vous voulez, ça commence pas par un référendum puis un drapeau que tu t'en vas te promener à l'ONU. Ça commence par être capable de te faire vivre. Puis avant de dire si je reste avec quelqu'un ou si je me sépare, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je suis capable de me faire vivre moi-même? Puis peut-être que si on était capable de se faire vivre nous-mêmes, ça irait mieux dans notre relation avec le Canada.
On va faire une pause, Éric Duhaime. Je rappelle aux auditeurs qu'on passe la soirée à placoter avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le volume à la planche. C'est un show musical avec Mathieu Marcotte et Reg Laplanche. Deux gars bien ordinaires.
Moi, j'ai su que j'étais rendu big. La fois que j'ai été le barman officiel sur scène au Vans Warped Tour devant 50 000 personnes pour Me First and the Gimme Gimme. T'as Fat Mike de NoFX et Joey Cape.
Oui, puis même Chris Shiflett qui est dans Foo Fighters. Someone... Deux gars comme tout et moi.
Les parents sont passés manger.
Arrive vers 4h, 4h01, 7h, 7h01.
Les parents sont dans le char, ils ont adoré leur soirée.
Puis nous, on passe à autre chose.
Ouais, ils sont plus relax maintenant. C'est pour ça qu'ils passent leur samedi et leur dimanche après-midi à compter leurs vieilles affaires. Puis à vous tourner la meilleure musique à Québec.
Le volume à planche, juste après mon boulevard du rock. 15h.
Votre demande de pardon est importante pour vous? Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
Chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, c'est l'occasion à ne pas manquer. Offrez-vous l'Eclipse Cross ES 2025 à traction intégrale en location 36 mois pour seulement 178 $ aux deux semaines à un taux d'intérêt de 3,99%. Avec 16 000 km par année et 1 500 $ d'acompte. En prime, bénéficiez d'un plan d'entretien prépayé de 2 ans sans frais. Ne manquez pas cette offre unique chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi au 1000 boulevard Pierre-Bertrand ou au 2830 rue Einstein.
Cet été, prenez le contrôle avec EnviroConfort. Grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque reconnue, EnviroConfort a la solution pour votre confort et pour des économies d'énergie. Obtenez de 300 à 1000 $ de rabais, plus les remises manufacturières et les subventions gouvernementales. Thermopompes, climatiseurs murales ou centrales, accumulateurs de chaleur et géothermie, plusieurs produits et marques disponibles selon vos besoins. Et surtout, des experts pour vous conseiller. EnviroConfort, le choix du consommateur en chauffage et climatisation.
T'as envie d'une job le fun sans soin ni fin de semaine avec un salaire compétitif puis une gang vraiment tripante? Joins-toi à l'équipe de Telio Assurance, le bureau complètement différent et le plus cool au Québec. Plusieurs postes sont ouverts. Courtier en assurance de dommages des particuliers, agent premier contact ou de perception, adjointe administrative, formatrice en assurance et gestionnaire de compte en entreprise. Intéressé mais sans formation? Joins-toi à notre académie et nous acceptons les candidatures spontanées. Passe voir ça à nos bureaux de Québec ou Lévis ou postule à telioassure.com.
Voici la vraie histoire de Louise Dumontier.
Ça m'est vraiment arrivé.
Ça faisait un bout que Louise trouvait sa pédale d'accélération un peu raide.
Ben, juste un peu.
Mais en allant reconduire un ami, le câble de sa pédale d'accélération a lâché.
J'ai dit, « Hey, j'ai plus de pédale! J'ai plus de pédale! » Mais mon ami me croyait pas. Il a regardé puis il me crie, « T'as plus de pédale! T'as plus de pédale! »
Rendez-vous pas là.
Rendez-vous chez Point S.
Et pour vous aider à rouler sans stress, on vous offre jusqu'à 100 $ en rabais instantané à l'achat de 4 pneus Toyo Tires sélectionnés. Jusqu'au 20 avril. Détails sur point-s.ca.
Chez JM Auto Plus, ce qui nous passionne, c'est l'automobile. Et c'est pourquoi nous cherchons à être en constante évolution pour toujours vous donner le meilleur service. Venez voir notre nouvelle succursale au 301 rue Seigneurial et découvrez la section éco-électrique. Détails au jmautoplus.com.
Matelas Dauphin prolonge sa super vente d'entrepôt jusqu'à dimanche 17h dans tous ses magasins. C'est l'occasion de vous offrir un matelas Dauphin au prix le plus bas de l'année. Exemple, obtenez 50 % de rabais et plus sur tous les formats de matelas alcôve ultra confortable garantis 15 ans, dont le format grand en super spécial à 599 $. Beaucoup, beaucoup d'autres spéciaux exceptionnels sur place. Jusqu'à dimanche, 17h, c'est la super vente d'entrepôt Matelas Dauphin.
Pour un achat ou un renouvellement hypothécaire, MRL Hypothèque trouve toujours les meilleures options pour votre financement. Et leur conseil en ce moment, c'est de geler votre taux avant qu'il n'augmente jusqu'à la fin du printemps. Faites-leur confiance. Appelez MRL ou visitez mrlhypothèque.ca.
Les 19 et 20 avril, dès midi, laissez-vous envoûter par le week-end de Pâques chocolat favori, une fête chocolatée et amusante au profit de la Fondation du Musée de la Civilisation. Au menu, spectacle, décoration de chocolat, chasse aux noix, conte, bricolage et plus encore. En nouveauté, cabane à sucre et restaurant mobile de la Cité agricole. Pour en savoir plus sur la Fondation ou pour faire un don, visitez mcq.org. Une présentation de Desjardins en collaboration avec la Fondation Dufresne et Gauthier, Barry Calbeau et Weekend 91.9.
Alerte aux fans de Le Frillet, notre cinquième emplacement dans la région de Québec est maintenant ouvert à Charlebourg. Si vous avez besoin d'un café pour être supportable, c'est ici que ça se passe. Parce qu'un déjeuner sans Le Frillet, c'est pas un vrai déjeuner. On vous attend au 8730 boulevard Henri Bourassa.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire... c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Boulevard.
Boulevard 102. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à télé? Puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix.
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui est de passage dans nos studios ce soir. Merci beaucoup d'être là en passant. On l'a souligné en début d'émission. Tu te déplaces pour être là en personne. Puis j'imagine que tu as ton garde-robe dans ton char parce que tu es tout le temps dans ta voiture. Tu te promènes à travers le Québec. Là, dans les prochaines minutes, tu t'en vas vers Victoriaville.
Oui.
Tu vas aller passer la soirée là. Ça te demande, quand on est chef d'un parti, ça peut te demander à peu près combien d'heures par semaine? L'as-tu déjà calculé?
J'essaye, mais c'est pas si simple que 100 $. Parce que, mettons, quand je regarde mon cellulaire, est-ce que tu comptes ça?
Oui, ben oui.
Ben, tu sais, moi, je vais poster, je sais pas combien de fois par
J'espère
jour.
J'espère que mon patron m'entend, oui.
Mais puis tu sais, des fois, c'est qu'à un moment donné, ta vie politique puis ta vie personnelle devient toute
mêlée,
puis ouais. Tu sais plus. Tu sais, fait ce midi, j'étais allé dîner avec quelqu'un qui est un bon ami, mais qui est aussi un organisateur du parti. C'était-tu une job un peu, parce qu'on a parlé quand même de politique, mais c'était on a parlé de nos vies aussi, puis on s'est jasé un peu. Je sais même pas si c'était je peux compter ça comme une rencontre politique ou personnelle. Fait que ça devient très, très... Tu sais, demain, je m'en vais à des funérailles de quelqu'un, parce que... Mais tu sais, oui, c'est de la politique, parce que, mais en même temps, c'est quelqu'un que j'aimais puis qui est décédé, puis je vais aller saluer la famille puis, tu sais, leur offrir mes condoléances. Fait que je suis pas capable de répondre à ta question. C'est très, très difficile.
Ouais.
Puis toute ta vie, en fait, ce qui est difficile, c'est que tu contrôles plus ton agenda, puis toute ta vie gravite autour de ton job. T'sais, quand moi, c'est clair que, tu sais, il y a des gens qui ont une job pour faire vivre leur famille, puis pour... c'est alimentaire, puis que c'est pour se permettre d'avoir leur style de vie. Moi, c'est le contraire.
Puis prendre des vacances, puis je vais te poser la question, mais je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. C'est-tu facile prendre des vacances au Québec quand on est le chef du Parti conservateur, un visage assez connu? Il y a de ça quelques mois, je parlais avec Pascal Paradis, qui, lui, a été élu dans une partielle Jean Talon à Québec. Et, et il me racontait qu'il y avait eu... Ben, il était content, là, mais il y avait eu l'idée de passer des vacances à Québec, dans son patelin. Tu sais, le boulevard Champlain, ils ont fait comme une genre de petite plage.
Ben oui.
Fait que là, lui, il est avec son speedo. Bon, là, je l'imagine, parce que je l'avais pas vu, mais il est avec son speedo sur la plage. Puis il y a des gens qui le reconnaissaient, puis qui allaient parler avec lui de politique pendant que lui était en baden. Puis il m'avait dit, Yann, c'est assez particulier quand tu vis ça. Éric Duhem, es-tu à l'aise de prendre des vacances au Québec puis de se faire jaser de politique par les gens qui veulent lui parler?
Personnellement, je prends pas mes vacances au Québec.
Ah non?
Puis...
T'as-tu un speedo?
Honnêtement, non, mais c'est pas, ça me dérange pas. Comment je te dirais ça? J'aime ça parler au monde. J'ai rien contre ça. Puis je le sais que je suis une personnalité publique. Puis je sais que ça fait partie de ma job. Puis je sais que pendant que je fais mon épicerie, je vais me faire arrêter 4-5 fois. Puis je sais que dans le stationnement, je vais pogner il y a quelqu'un qui va vouloir avoir un selfie. Puis c'est tout ça. Ça m'arrive tout le temps. Là. C'est normal. Là.
Mais les vacances.
Mais en vacances, je veux déploguer. Puis c'est, même les vacances, où je vais à l'extérieur du Québec, il faut que je fasse attention. Parce que si, par exemple, je vais en Floride, ben il y a des quartiers où il y a des villes où je vais moins, là, tu comprends? Fait que j'essaie d'aller dans des endroits où ça parle un petit peu moins français.
Ben oui.
Puis, fait que Mais je trouve pas ça. C'est pas parce que... Je veux pas que ça soit mal interprété. Là.
Non, c'est juste que tu veux déconnecter.
C'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de tirer à la plug.
Ben oui, c'est normal.
Puis... C'est difficile au Québec. Puis si je prends des vacances au Québec, ça va être dans un chalet dans le bois, dans le fin fond des bois. Puis quand il y a des affaires à aller chercher au village ou qu'il y a des affaires à faire, c'est pas moi qui ai fait.
Okay.
Fait que il faut que ça soit vraiment déconnecté.
Éric Duhem, il reste quelques minutes. Là, il va y avoir des partiels là, pour le provincial.
À quelle place, non?
C'est quoi vos plans? C'est dans le secteur de Québec, grande région de Québec. Okay. Y en a-tu un autre?
C'est à Victo.
C'était Victo.
C'était Arthabasca.
Arthabasca, excuse-moi. Puis tu avais aussi le comté d'Éric Kerr que je pensais un moment donné qui allait être disponible pour des élections partielles, mais malheureusement, ils ont peur que, ils ont peur que tu rentres.
Il y avait aussi le comté de Sylvain Lévesque là, qui a été expulsé comme vice-président de l'Assemblée, mais il n'était pas assez honnête pour être VP de l'Assemblée nationale, mais assez malhonnête pour rester député de la CAQ.
Exact, exact. Non, mais c'est assez particulier ce qui se passe à Québec, on va se le dire, là, pour ce qui est des députés de la coalition Avenir Québec. À ce matin, je regardais sur... c'est Québec 125, ouais, je pense que c'est ça. Québec 125, puis la CAQ, à certains endroits, là, ça n'existera plus. Là. S'il y a des élections demain matin, ça va être extrêmement difficile pour François Legault. Vous autres, vous avez les partiels? Ça va être quoi, votre stratégie?
Bien, la partielle qui nous intéresse depuis un an, parce que c'est le comté d'Arthabasca, parce que le député avait annoncé qu'il se présentait pour le Parti conservateur du Canada avec Pierre Poilievre. Et donc, depuis un an, je suis allé beaucoup à Victoriaville. Là. C'est pour ça que je m'en retourne là encore dans les prochaines heures. Et c'était pour... Puis on a été présents, très présents sur le terrain. C'est un comté où on avait fini deuxième très fort. Et c'est probablement le premier comté qui va avoir des partiels dans les prochaines semaines. Ça pourrait arriver très tôt, en fait. Ça fait déjà quelques mois là, que le siège est vacant. Donc, en tout cas, moi, c'est là que je vais me concentrer dans les prochains mois. Il faut faire notre entrée dans l'Assemblée nationale. T'sais, le Parti conservateur du Québec, là, on a eu une croissance phénoménale. On en a parlé tantôt. C'est jamais arrivé qu'un parti connaisse une croissance aussi rapide que la nôtre. Là. Mais on n'est plus à l'époque des victoires symboliques. Là, ça prend des victoires réelles. Puis une victoire réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sièges à l'Assemblée nationale. Fait que l'objectif, c'est pas d'augmenter notre pourcentage. L'objectif, c'est de gagner tout court. Et il va falloir mettre tous les efforts, puis on va mobiliser tout le Québec pour gagner cette élection partielle.
Puis est-ce que c'est toi qui vas se présenter dans ce comté-là?
Écoute, c'est la réponse n'est pas courte parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'élection va avoir lieu. Le gouvernement a 6 mois, le premier ministre a 6 mois pour choisir la date des élections. Plus il attend, moins ça joue en ma faveur. C'est-à-dire que plus on approche l'élection, plus moi, il faut que je commence à trouver des candidats, faire du financement, faire des tournées de région. J'ai moins le temps pour être dans une seule circonscription, à faire du porte-à-porte puis à rencontrer le monde. Donc, plus ça va être rapproché de l'élection, moins ça va être possible pour moi. Mais si c'est à très court terme, il est très, très fort possible que je sois candidat.
OK. Donc, si c'est toi, nécessairement, on va te voir à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale.
Si je gagne.
Si tu gagnes. Si c'est pas toi, puis cette personne-là est élue, tu peux pas avoir accès au salon?
Oui. En fait, c'est arrivé, ça. Quand Claire Samson est venue me rejoindre au début, j'avais le droit d'avoir des conférences de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale.
Voilà. Écoute, tu peux pas avoir accès au salon.
Non. Voilà. C'est tellement fou ce qui se passe. Faut que je te raconte une anecdote. Je sais pas si on a le temps.
Oui, il te reste 2 minutes.
Mais récemment, Radio-Canada fait un documentaire, OK, sur les 20 ans du référendum de 1995. Puis ils voulaient interviewer tous les chefs de parti pour savoir où on était pendant le référendum puis comment ça s'est passé. Puis ça, tu sais, c'est un documentaire de très, très correct, là. Et là, ils ont réservé des espaces à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale pour faire des entrevues avec les différents chefs. Fait qu'ils ont fait toutes les entrevues. Quand c'est arrivé à moi, l'Assemblée nationale a refusé que je rentre à l'Assemblée. Fait qu'on est obligé de louer une chambre d'hôtel à côté de l'Assemblée nationale pour que je puisse faire une entrevue. Parce que j'avais même pas le droit. J'ai même pas le droit de mettre le pied à l'intérieur de la Maison du peuple. Puis je représente 530 000 électeurs. On a eu le même nombre de votes que les libéraux, les péquistes et les solidaires. Puis j'ai pas le droit de mettre l'orteil à l'intérieur des murs du Parlement. Avant, j'avais reçu 0 vote. Il y avait une femme que j'avais convaincue de traverser la Chambre, puis j'avais le droit de rentrer à tous les jours dans l'Assemblée nationale. C'est vous montrer comment il y a un mur à l'heure actuelle, comment ils veulent pas que le Parti conservateur soit là. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt aussi. Tu sais, l'unanimisme, par exemple, sur la bourse carbone, sur un paquet d'enjeux.
Exact.
On est tellement différents, puis on est tellement contre le modèle actuel qui est imposé par le gouvernement, que les partis se sont comme coalisés pour empêcher le Parti conservateur d'avoir la moindre petite place.
Oui, puis ça, c'est ce que je dénonce depuis que je suis à la radio. En fait, 125 députés à l'Assemblée nationale, 3-4 équipes qui sont là, puis tu as l'impression que c'est ces 3-4 équipes qui sont là qui contrôlent les 125, alors que c'est 125 cerveaux différents, des gens qui sont capables de penser ce qu'il y a de bien pour eux, ce qu'il y a de bien pour les gens qui les ont mis au pouvoir. C'est assez particulier, ça, que les votes soient encore à main levée. Ça devrait être des votes anonymes, puis les gens ont le droit de voter pour leurs propres convictions. Malheureusement, la politique étant ce qu'elle est, on t'oblige à voter selon ce que le parti veut que
tu votes. C'est la ligne de parti. Puis c'est très difficile d'aller contre ça parce que le parti qui va dire « OK, on ouvre », ben tu te mets en désavantage parce que là, les autres vont prendre intérêt. Ils vont tout essayer de convaincre. C'est comme si tu jouais pas avec les mêmes règles du jeu. C'est comme quand tu rentres dans un sport puis il y a une équipe qui est obligée d'avoir certains règlements puis l'autre équipe a l'autre règlement. Mais c'est vrai que c'est archaïque. Puis c'est pas vrai que c'est partout pareil. Là. Aux États-Unis, là, tu sois démocrate ou républicain, là, au Sénat puis à la Chambre des représentants, tu votes comme tu veux. Puis tu votes en fonction de tes électeurs, pas en fonction de ce que le chef décide. Mais au Canada, on n'est pas rendu là.
Éric Duhaime, pour les gens qui veulent en savoir plus sur le programme du Parti conservateur, on les envoie sur ton site.
Conservateur.Québec. C'est facile. Ou les réseaux sociaux, en fait, si vous me suivez là, sur Facebook, sur Twitter, sur X là, ou n'importe où ailleurs.
Merci beaucoup pour ce bel entretien. Ça a été le fun de jaser. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Puis bon voyage dans le comté d'Arthabasca.
Merci. Bonne fin de soirée. Bye aussi. Bye.
On se laisse là-dessus, les amis.